Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is Watchman Alarm Phone.
Hello, my friend. This is Alarm Phone.
How are you, my friend?
I hear
How
you.
Can you hear me?
Hello, my friend. This
okay,
is
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? Can you hear
me? Give
me
your GPS position.
Okay, I call you back.
What kind of boat are you on? See around you?
Can you give me your GPS position?
You
on
the boat? I hear you.
Can you hear me?
Okay,
I call you back.
I will call you back.
Try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans la 5e émission de Chronique amère, où on parle de la politique des frontières autour de la Méditerranée et de leurs conséquences, et toujours depuis Alarm Phone. Dans cette émission, on a voulu vous parler de ces 108 personnes qui, fin mars 2019, ont fui la Libye dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Elles ont été secourues par le navire marchand Ali Blue 1. Les autorités maltaises ont alors tenté de renvoyer illégalement ces personnes en Libye. Mais collectivement, les 108 rescapés ont protesté et ont réussi à convaincre le capitaine du navire marchand de prendre la route vers Malte. À l'arrivée à Malte, 3 des rescapés ont été accusés de piraterie et attendent depuis 2 ans un procès. Attention, parce que la situation est dure et violente en Méditerranée, cette chronique et les histoires qui y sont racontées peuvent être difficiles à entendre. Alarm Phone, avant d'être une ligne téléphonique pour les migrants en détresse en mer, c'est avant tout un réseau d'activistes qui luttent contre les politiques des frontières. Tout un pan du travail d'Alarm Phone se joue au niveau des médias, mais aussi au niveau juridique, en dénonçant les pratiques meurtrières des États, en médiatisant les cas de détresse en mer, ou en collaborant avec d'autres organisations pour mettre en place des campagnes médiatiques, comme celle d'Ali Blue 3.
L'affaire Ali Blue n'était pas un cas Alarm Phone, mais plusieurs membres de notre réseau Alarm Phone l'ont suivi de très près, car sa signification politique était très claire. Les autorités européennes, et en particulier les autorités maltaises et italiennes, ont vraiment tenté de faire un exemple de ces 3 personnes exilées innocentes. Donc plusieurs personnes d'Alarm Phone ont vu tout ça se dérouler et ont décidé d'intervenir. Alors, on s'est mis en contact avec des amis activistes, des avocats et des ONG à Malte, et on a décidé de monter une campagne avec d'autres activistes et ONG liés à la recherche et au sauvetage en mer, afin d'exiger l'abandon des charges. Et puis, après leur libération de prison, on a pu également rencontrer les 3 inculpés à Malte et les soutenir de différentes façons, notamment en produisant un site web, ainsi qu'un documentaire où d'autres témoins qui avaient été secourus par le Ali Blue 1 se sont exprimés en solidarité avec les accusés. La campagne a ensuite pris de l'ampleur, notamment quand Amnesty, par exemple, y est entrée, et nous avons réussi à susciter un fort intérêt médiatique.
Mars 2019. 108 personnes quittent la Libye et ses camps à bord d'un bateau pneumatique de plusieurs mètres de long. Elles font cap vers le nord. Un avion les survole. Il fait partie de l'opération Sophia, une opération militaire mise en place en 2015 par l'Union européenne pour mettre fin aux traversées et entraîner les soi-disant gardes-côtes libyens à faire le travail de refoulement de l'Europe. Ce 26 mars 2019, d'ailleurs, l'Union européenne décide d'arrêter d'envoyer des bateaux de sauvetage en mer et de renforcer la surveillance aérienne. Les avions sont en lien avec les soi-disant gardes-côtes libyens pour ramener les gens en Libye. 26 mars 2019, donc. L'avion de l'opération Sophia alerte les bateaux autour de la présence du bateau pneumatique avec les 108 personnes à bord. Le navire pétrolier Eli Blue One, alors à quelques kilomètres du bateau en détresse, reçoit le signal d'alerte et se dirige vers l'embarcation. Quand Eli Blue arrive au niveau de l'embarcation, certaines personnes montent à bord du cargo. 6 personnes refusent, par peur d'être ramenées en Libye.
De mourir dans l'eau, c'est mieux que d'aller en Libye.
Elles ne seront jamais retrouvées. Le capitaine de Eli Blue One demande un interprète en anglais parmi les personnes secourues. Il explique alors la situation. Il se dirigeait vers Tripoli. Il a été informé de la présence de l'embarcation et il est maintenant en attente des ordres de l'opération Sophia. Les personnes secourues se mettent alors à hurler. Plusieurs menacent de se jeter à l'eau. Le capitaine jure qu'il va aider les personnes à aller en Europe.
À un moment donné, capitaine qui est descendu après, dit que c'est lui le capitaine du navire, grand bateau là. Maintenant il dit non quoi, bon, calmez-vous, il y a bonne nouvelle, qu'ils vont guider, ils vont se diriger vers Malte. Donc, tout le monde a commencé à applaudir, tu vois non.
26 mars 2019, pendant la nuit. L'opération Sophia ordonne au capitaine de faire demi-tour et de ramener les gens à Tripoli. Au matin du 27 mars, les personnes à bord se réveillent et voient la terre.
Jusqu'en vers 6h, 5h comme ça, c'est là on a vu les lumières d'une grande ville. Et il y a certains parmi nous, c'est là on a su que non, c'est pas en Europe quand on s'en va directement, c'est en Libye.
Les personnes à bord se mettent à protester, à crier, à taper sur le navire avec des bouts de bois et de métal. Le capitaine s'enferme dans sa cabine, puis change de cap vers la pleine mer.
C'est comme ça s'est commencé, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous les femmes, on dit qu'on ne va pas descendre. Si les Libyens viennent, nous on ne descend pas. Nous on a pris la décision pour ça.
Je ne sais pas pourquoi il a fait demi-tour, témoigne l'une des personnes à bord. Mais j'ai vu des gens protester et ça a fonctionné. Le capitaine sort finalement de sa cabine. Les gens à bord sont soulagés du changement de direction, mais ne lui font plus confiance. 3 personnes qui parlent anglais font l'intermédiaire entre le capitaine et les autres rescapés. Ils restent avec le capitaine et suivent ensemble la route de Eli Blue One vers Malte. Pendant ce temps, à terre, c'est le déchaînement médiatique. Les journaux parlent d'attaques, pirates, de détournement de bateaux. Les 3 personnes qui ont assuré la traduction sont présentées comme des terroristes en bande organisée. Le 28 mars 2019, minuit 51. Eli Blue One est à 24 000 nautiques de Malte, environ 38 km. Les forces maltaises lui ordonnent de s'arrêter et refusent l'entrée dans les eaux territoriales. Une conversation radio s'engage alors entre Eli Blue One et les forces armées maltaises, AFM.
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 Eli Blue One, this is Maltese patrol vessel Papa 21.
Eli Blue 1, ici le patrouilleur maltais Papa 21. Vous faites toujours route vers les îles maltaises à une vitesse constante. Vous avez déjà reçu l'instruction de ne pas continuer à entrer dans les eaux territoriales maltaises. Veuillez arrêter votre navire. Eli Blue 1. Ok, monsieur. Mais les migrants... Mon navire n'est pas sous contrôle. Eli Blue 1, une voix différente. Bonjour monsieur, je suis l'un des migrants. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous ne forçons pas le bateau à aller à Malte. Mais la situation est très mauvaise. Nous avons des enfants, 12 enfants. Ils ne parlent même plus. 3 jours maintenant, sans nourriture ni eau. AFM. Bien reçu. Restez en attente sur ce canal pour le moment.
28 mars 2019, 5h30 du matin. Les forces spéciales maltaises débarquent sur Eli Blue. Les soldats et les unités antiterroristes sont cagoulés et portent des armes automatiques. Ils escortent le pétrolier jusqu'au port de La Valette. Les gens sont débarqués et emmenés dans un centre d'immigration, dans la ville de Marsa. Les 3 jeunes, restés avec le capitaine dans la cabine, sont arrêtés et emmenés en prison. Ils sont accusés de terrorisme. Le capitaine de Eli Blue est interrogé, suspecté d'avoir menti sur ce qui se passait à bord pour que les gens puissent être débarqués à Malte. Il est finalement relâché. Les 3 personnes qui ont traversé, qui ont résisté, elles, sont toujours en procès.
Ce sont les trois personnes qui nous ont calmés. Parce qu'ils comprenaient la situation, ils comprenaient l'anglais. Et il a accusé ces trois personnes à qui nous, et ce sont nos chefs. Alors qu'on ne se connaît pas, les trois personnes, on ne vient pas des mêmes quartiers, on ne vient pas des mêmes villes, on ne vient pas des mêmes pays. Aucun d'entre nous ne se connaît. Seulement, on a tous la peau noire.
Yon wi gudu na manila dandam na bari na kham yam yam lu ne ngay jang kontel yon nu souffle bari jam la dangay bagn sonon ire tan.
En Libye, après plus de 10 ans de guerre civile, c'est le chaos. Les personnes migrantes y sont victimes de violences et de trafic d'êtres humains, vendues aux enchères et réduites en esclavage. Celles qui sont enfermées dans les centres de détention financés par l'Europe y subissent mauvais traitements, viols et tortures.
Souvent, il y a des coups de feu. Souvent, la nuit, quand nous sommes couchés dans un gros bâtiment, les Arabes venaient prendre deux de nos amis, trois. Et les filles, certaines, on les violait. On peut te tirer, soit on peut te frapper jusqu'à la mort.
L'Organisation internationale pour les migrations estime à 500 000 le nombre de personnes actuellement prises au piège en Libye. Fuir par la mer est le seul échappatoire. C'est ce qui pousse les personnes à s'embarquer pour une traversée qu'elles savent extrêmement risquée.
Quand tu montes dans le bateau, tu portes un seul habit. Tu ne portes pas les chaussures. Tu n'as pas de téléphone. J'avais peur parce que j'étais enceinte. J'étais fatiguée. J'avais peur, j'avais trop peur.
Les trois personnes arrêtées à l'arrivée de Malte, qui avaient alors 15, 16 et 19 ans, sont accusées notamment de violence contre des personnes et contre des propriétés, séquestration illégale de personnes et menaces, actes de terrorisme comprenant la saisie d'un bateau, la destruction massive d'une propriété privée. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Il passe 7 mois en prison sans aucun procès, avant d'être enfin libéré sous caution en novembre 2019. Depuis, ils doivent signer tous les jours au poste de police. Ils encourent des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Ce n'est qu'en mars 2021, soit 2 ans après les faits, qu'une personne rescapée par le navire El Iblouin est entendue au tribunal, alors que l'équipage du bateau avait été entendu le jour même du débarquement. C'est Malte qui devrait être sur le banc des accusés. C'est Malte qui organise des refoulements illégaux vers la Libye et charge les navires marchands de faire leur sale besogne en échange d'essence, d'argent et de nourriture.
Parler de la criminalisation des personnes exilées qui traversent et de leur résistance est très important pour nous. On a souvent entendu les journaux et autres médias dominants parler de la criminalisation des bateaux ONG, des équipages de ces bateaux, etc. La répression contre l'Aquarius ou le Sea-Watch 3, le procès de Carola Rackete, celui de Pia Kemp ou encore celui de Cédric Héroux. Bref, souvent quand ces médias parlent de répression des migrations, ils se focalisent sur la répression des solidarités, des Européens et Européennes qui luttent contre les frontières. Et très rarement, on entend parler des premières criminalisées, les personnes exilées, ainsi que celles qui s'organisent depuis les pays de départ pour que d'autres puissent partir. Alors que partir est considéré comme un crime dans certains pays, alors que l'Europe et les États frontaliers investissent des sommes faramineuses pour mettre en place des dispositifs répressifs hallucinants contre celles et ceux qui cherchent à traverser les frontières européennes, alors que celles et ceux qui aident au passage depuis les pays de départ sont poursuivis, enfermés, parfois expulsés des pays frontaliers dans lesquels ils vivent, mais où ils ne sont pas nés. C'est le cas pour plusieurs camarades de l'Alarm Phone, par exemple, qui vivent au Maroc ou au Sahara occidental et qui sont régulièrement envoyés au Sénégal ou au Mali en tant qu'activistes pour la liberté de toutes à circuler.
Le fait de criminaliser arbitrairement des exilés est une méthode très utilisée dans toutes les zones frontalières. En Grèce, par exemple, quand une embarcation arrive sur les îles grecques, le conducteur est automatiquement mis en prison et accusé d'être un passeur, alors qu'il n'est en réalité qu'un passager parmi les autres. À la suite de procès bidons, les accusés encourent des peines absurdes allant jusqu'à 135 ans. La peine de prison est plus élevée en Grèce quand on est inculpé
pour être passeur que quand on tue quelqu'un.
En Algérie aussi, l'État s'est doté d'outils de contrôle et de répression féroces pour empêcher le départ à la fois de ses ressortissants et ressortissantes et des personnes exilées présentes sur son territoire, principalement des Africains et Africaines subsahariennes. Dans une loi de 2009 qui aligne la politique migratoire algérienne sur les normes des États européens, le délit de sortie illégale du territoire expose les Algériens et Algériennes à une peine allant de 2 à 6 mois de prison et à une amende de 20 000 à 60 000 dinars, soit 120 à 370 euros, ce qui représente une somme dans un pays où le salaire moyen est de 209 euros. Pourtant, cette loi ne fait que générer chez les Algériens et Algériennes un sentiment d'injustice croissant et accentue leur désir d'exil. De l'autre côté, à l'égard des personnes subsahariennes, l'Algérie applique une politique systématique de harcèlement et d'expulsion, en parfait accord avec l'externalisation des frontières. Arrestations, détentions dans des camps de rétention et enfin déportations massives dans le désert du Sahara sont monnaie courante en Algérie depuis près de 10 ans. Criminalisation ne se limite pas aux zones de départ. À l'arrivée, les entorses au droit d'asile sont courantes et l'enfermement est souvent systématique, bien au-delà des délais légaux. Entassés dans des centres insalubres aux Canaries, emprisonnés dans des centres de rétention à Malte ou en Italie, enfermés dans des bateaux de quarantaine, parqués dans des camps en Grèce, pour les exilés, survivre à la traversée, atteindre l'autre côté, ne signifie ni la fin du voyage, ni la fin de la répression.
On va continuer à faire campagne pour la liberté des trois inculpés, parce que nous savons que cette affaire est très importante. Tout d'abord, bien sûr, pour les trois accusés dont l'avenir est en suspens et en danger à cause du procès, mais aussi parce que nous savons qu'on a le devoir de montrer la criminalisation de la migration en Europe et de construire des liens forts et de la solidarité avec les personnes concernées.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette chronique avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité et de force avec les 6 de Moria, dont 4 sont jugés ce jeudi 11 juin en Grèce. Les 6 de Moria, ce sont ces adolescents afghans accusés d'avoir incendié le camp de Moria, un camp tristement connu pour ses conditions de vie épouvantables et ses violences policières systématiques. Dès leur arrestation et avant toute procédure légale, ils ont été présentés au public comme coupables. 2 des mineurs co-accusés ont déjà été condamnés à des peines de prison en mars, malgré un manque de preuves et un procès aux nombreuses irrégularités. Ces 6 jeunes sont d'autres victimes de l'acharnement des États à ériger les personnes exilées comme des criminels. Tout comme pour El Hibou 3, une campagne existe pour les 6 de Moria, Free the Moria 6, afin de réclamer un procès juste, équitable et transparent. On mettra le lien sur la page internet de l'émission. Des pensées de solidarité avec El Hibou 3, ces 3 personnes accusées de terrorisme pour avoir participé à un mouvement collectif et sauvé leur vie de l'enfer libyen et résisté aux pratiques illégales de l'Europe. Parce que ce qui nous importe, c'est qu'on ne laisse pas des individus assumer seuls face aux forces répressives ces actes qui participent de l'émancipation collective. Des pensées de solidarité donc à toutes les personnes exilées qui résistent encore, encore et encore. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusée, qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées de la frontière méditerranéenne, vous pouvez aussi consulter le site What the Med ou celui d'Alarmphone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère. En attendant, main sur le cœur et point levé. Thank you.
Spect.